Grenoble, Alpes, Métropole présente Presse Citron.
Les offres.
Vous écoutez Nicolas Bridas, chercheur, titulaire de la chaire UNESCO et auteur du livre Une écologie de l'alimentation.
Bonsoir à toutes et à tous. Et merci à Michel Bekowski et au Pacte Civique de l'Isère là, de cette opportunité de partager avec vous. Et l'idée, c'est de partager, c'est-à-dire d'essayer très vite de débattre et de discuter sur un certain nombre de propositions. Je vais essayer de parler d'alimentation durable. Je vais peut-être d'abord dire en quelques mots d'où je parle. Je m'excuse à l'avance pour des gens qui étaient à la conférence hier soir à l'INP, qui étaient sur le même sujet. J'ai essayé de ne pas faire la même chose et d'insister plutôt, parce que c'est le pacte civique, sur l'enjeu de la construction d'une démocratie alimentaire et d'expliquer qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi, me semble-t-il, l'enjeu, il est principalement politique et comment on essaie de changer les rapports de force dans un système qui est aujourd'hui complètement bloqué pour se transformer, pour intégrer les préoccupations de durabilité. Donc moi, je travaille au CIRAD, qui est un établissement public de recherche qui travaille sur les questions agricoles, environnementales, biodiversité et bien sûr alimentation, plutôt à l'échelle internationale. Donc c'est un établissement public basé majoritairement à Montpellier qui travaille sur Afrique, Asie, Amérique latine et Dom-Tom. Et dans une unité mixte de recherche, comme on dit, c'est-à-dire une unité dans laquelle on est une centaine de chercheurs de différentes institutions et qui travaillons sur les systèmes alimentaires durables. Et on a deux gros paquets disciplinaires, on va dire, les sciences économiques, sciences de gestion, sciences sociales, socio-anthropo et sciences politiques d'un côté, et nutrition publique de l'autre, épidémiologie nutritionnelle. Et c'est un travail complètement entre ces deux types de disciplines. Je suis titulaire de la chaire UNESCO Alimentation du Monde. Une chaire UNESCO, c'est un programme de travail qui est labellisé par l'UNESCO et qui vise à organiser du dialogue interdisciplinaire sur les questions d'alimentation contemporaine, d'une part, et d'autre part, de dialogue entre science et société. Et quand je dis société, on a trois types d'acteurs avec lesquels on dialogue et on fait de la diffusion de savoir et de la remontée de questions vers la recherche. Ce sont les politiques à l'échelle locale jusqu'à l'échelle régionale ou internationale. Ce sont les acteurs de la société civile engagés dans la transition ou dans la transformation des systèmes alimentaires. Et ce sont aussi les entreprises. Et puis, même style. Je suis membre d'un panel international qui s'appelle IPES Food, qui est présidé par Olivier de Scutter, qui est le rapporteur spécial des Nations Unies sur la grande pauvreté, et qui fournit du référentiel, de la donnée scientifique, de l'argumentation aux acteurs, surtout de la société civile, très engagés dans la transformation des systèmes alimentaires. Donc je vais essayer de le faire en trois temps, assez vite, et puis on pourra revenir sur des détails ou certains points. Rappeler pourquoi les systèmes alimentaires industriels qui ont permis de la croissance démographique qu'on a connue en particulier depuis le 19e siècle, ont permis l'urbanisation, qu'ont permis le dégagement et le développement de secteurs secondaires, des industries et tertiaires des services. Pourquoi ce système en fait n'est ni généralisable à l'ensemble de la planète, ni même durable dans les sociétés où il est très installé comme les nôtres. Et montrer que malgré tout, même si on est parfaitement conscient et que tout le monde est conscient, y compris les politiques et les entreprises, qu'il faut changer de système, en fait c'est bloqué aujourd'hui. On a du mal, on n'y arrive pas. En témoigne ce qui s'est passé hier à Bruxelles, la prolongation, non pas de 5 ans, comme c'était prévu, mais de 10 ans du glyphosate, et sous la pression en particulier d'un certain nombre de lobbies, mais aussi du fait qu'on a tout un système qui est embarqué dans un système industriel et qui n'arrive pas à en sortir. Et donc, non pas 6 pistes, ça c'était hier, mais la piste plutôt de la démocratie alimentaire sur laquelle je vais insister. Pourquoi le système n'est pas durable? Il n'est pas durable du point de vue environnemental, parce que d'une part, il épuise des ressources et d'autre part, il sature les milieux. Qu'est-ce que je veux dire quand je dis qu'il épuise les ressources? C'est que l'usage massif, notamment des pesticides, hein, insecticides et tout ce qui tue le vivant, qui empêche les plantes de pousser ou qui empêche les animaux de se porter en bonne santé, en fait conduisent à un effondrement de la biodiversité, effondrement qui devient dramatique puisqu'il rend probablement compliqué de continuer à produire avec les mêmes niveaux de production qu'on a connus jusqu'à présent. consommateur d'énergie fossile. Bon, alors ça a été historiquement le charbon, mais c'est beaucoup le gaz. Le gaz sert à produire de l'engrais azoté qu'on met massivement sur les plantes à la place des légumineuses qui captaient l'azote de l'air et qui enrichissaient les sols en azote. Mais c'est aussi toute l'énergie de la mécanisation et toute l'énergie de la transformation, de la distribution, du transport, de la réfrigération. Donc, une part importante de la consommation d'énergie vient du système alimentaire. Les plantes ont besoin de phosphore. Autrefois, on bouclait les cycles et on utilisait les animaux, les arbres et les rivières pour boucler, ramener du phosphore sur les zones cultivées. On a découvert les mines de phosphate au Maroc et en Mauritanie. On exploite aujourd'hui ces mines pour enrichir les sols en phosphore et de même en potasse, en potassium, avec, on va dire, moins d'épuisement. L'épuisement est moins accéléré que le phosphore. Le phosphore, ça devient très inquiétant parce qu'on l'a largement utilisé, on en a balancé une bonne partie à la mer et qu'on ne sait pas comment on va faire demain pour boucler les cycles. La surexploitation du poisson, la surexploitation de l'eau et la destruction des sols, notamment du fait que les sols n'étant plus vivants, notamment du fait de l'effondrement de la biodiversité, et ben, quand il y a de l'inondation, quand il y a de la sécheresse, et ben, les sols ils partent à la mer et on les perd, et on perd de la surface agricole avec ça. Donc c'est de l'épuisement ou de la surexploitation de ressources qui, à la limite, peut se réguler parce que quand la ressource devient rare, elle devient plus chère et que donc, du coup, on cherche les moyens de l'optimiser et d'en réduire l'usage. Donc, à la limite, on peut dire que c'est problématique. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus grave. Ce qu'il y a de beaucoup plus grave, c'est qu'en fait, on sature les milieux et on les rend du coup invivables. Alors, c'est en particulier, ben, vous le savez tous, c'est le changement climatique, c'est les émissions de gaz à effet de serre, c'est le CO2 de la mécanisation, c'est le méthane des ruminants, c'est le protoxyde d'azote N2O, de la surabondance de l'azote sur les sols et de la surabondance des effluents animaux. Le N2O, c'est un contributeur très important via l'agriculture. Et puis, c'est enfin les gaz réfrigérants HFC qui ont remplacé les CFC parce que les CFC détruisaient la couche d'ozone et les HFC ne la détruisent pas. Le problème, c'est qu'ils sont plusieurs milliers de fois plus puissants en effet de serre qu'une molécule de CO2. Et on a aujourd'hui une vraie question sur la nécessité de remplacer les gaz réfrigérants, dont grosso modo la moitié part en refroidissement des aliments, l'autre moitié en refroidissement des habitats. La saturation de l'azote. L'azote est bon marché, hein, 70% de l'azote de l'air, c'est de l'azote. Le procédé Haber-Bosch, procédé chimique inventé par deux chimistes allemands, permet de capter l'azote de l'air et de le mettre dans les sols. Il faut du gaz pour faire ça. Il faut beaucoup d'énergie. 95% du prix de l'azote, c'est le prix du gaz. Et on en a mis énormément et on a pollué. Un exemple, c'est les Pays-Bas. Vous avez peut-être entendu parler que les Pays-Bas, avec un gouvernement qui n'est pas du tout écologiste, atteignent de tels niveaux de pollution azotée qu'ils ont proposé, ils ont même essayé de dire, on supprime la moitié du cheptel des Pays-Bas. Évidemment, ça provoque une réaction que vous connaissez, la montée d'un nouveau parti ruraliste qui veut défendre les agriculteurs, mais c'est pour montrer à quel point la pollution azotée, dont on ne parle pas beaucoup, très importante aux Pays-Bas, très importante en Bretagne, mais aussi très importante dans plein d'endroits agricoles en France. La surabondance de l'engrais azoté, de l'engrais phosphoré et de l'engrais potassique, NPK, là, ces trois fameux engrais dont ont besoin les plantes, cette surabondance, elle passe dans les nappes phréatiques, elle passe dans les rivières, et quand vous mettez de l'engrais dans l'eau, ça fait pousser les plantes de l'eau, c'est-à-dire les algues, et c'est ça qu'on appelle l'eutrophisation et l'envahissement. Vous avez entendu parler des algues vertes en Bretagne ou des algues qui envahissent les rivières. Pollution, résidus chimiques, résidus à la fois des pesticides, résidus, c'est aussi l'azote est un produit chimique, mais c'est aussi les résidus de l'industrie vétérinaire avec l'envahissement des antibiotiques sur les milieux. Et puis enfin, les pollutions plastiques. Et là, je parle bien des saturations des milieux et des saturations des milieux agricoles et des milieux urbains. Beaucoup de plastique, macroplastique, le continent des plastiques dans la mer, dans l'océan, mais aussi les microplastiques qu'on ingurgite. Et avec des conséquences à la fois sur les équilibres de milieu, avec des équilibres qui sont détruits et des sols qui partent, mais aussi des équilibres sur la santé. C'est le deuxième grand enjeu de durabilité. Ça va pas être gai, je vous le préviens. Carence, maintien de carence. En Inde, on a... On a des zones dans lesquelles on a spécialisé l'agriculture pour faire de la production de céréales. On a réduit la diversification alimentaire et la diversité des plantes qu'on cultivait. Et du coup, on voit une explosion des carences en milieu rural en Inde, alors qu'on ne les avait pas autrefois. L'explosion du surpoids et de l'obésité, préfigurant des risques de maladies, et en particulier le diabète de type 2. Les résistances microbiennes liées à l'usage massif des antibiotiques dans l'élevage et les intoxications chimiques des individus, intoxications à la fois en résidus de pesticides et en microplastiques qui sont considérés aujourd'hui comme des bombes à retardement en matière de santé, avec la mauvaise santé de notre microbiote, l'animal qui est au cœur de notre tube digestif, de notre appareil digestif, mais c'est aussi maladies dégénératives, cancers, etc. On continue avec les dégâts socio-économiques. La pauvreté, on est dans le paradoxe où les agriculteurs sont parmi les plus pauvres de la planète, alors que ce sont eux qui désormais nourrissent une majorité de gens qui ne sont plus agriculteurs eux-mêmes. Et donc l'insécurité alimentaire, elle est massivement dans le milieu agricole. Moins en France, mais dans le monde en général. Le système alimentaire, depuis les travailleurs agricoles jusqu'aux livreurs de pizza, c'est un des secteurs dans lequel il y a le plus de précarité dans le travail, qui permet d'avoir une alimentation à très faible coût. C'est l'inéquité dans la répartition de la valeur ajoutée au sein de la filière, entre le producteur jusqu'au dans la distribution. Tous les travaux montrent en fait que aujourd'hui la valeur ajoutée, elle est concentrée dans les dernières étapes de la chaîne alimentaire, et que les agriculteurs gagnent toujours la même chose, toujours aussi peu, alors que les acteurs de la fin de chaîne sont ceux qui s'enrichissent le plus. Et puis en termes de conséquences aussi, et du changement climatique et de la fragilisation des systèmes, on a compris depuis 2008, depuis la crise des prix de 2008, que la grande période de stabilité qu'on a connue depuis les années 80, dans lesquelles les prix agricoles sur les marchés internationaux sont restés très bas et très stables, étonnamment, c'est une période absolument étonnante d'un point de vue historique, on est depuis 2008 rentré dans une période de turbulence dans laquelle les prix font des yo-yo, on est à flux tendu, il n'y a plus de stock, il y a plus d'aléas climatiques, il y a plus de pépins et de conflits. La guerre en Ukraine en est la dernière illustration. Et donc, rend aujourd'hui un environnement des entreprises beaucoup plus instable, et qui va du coup amener la question de la résilience, la capacité de tenir les chocs. Et puis enfin, les enjeux de gouvernance. Le système alimentaire aujourd'hui, il est concentré dans quelques mains de très grandes entreprises, des intrants, semences, engrais, produits phyto, irrigation, mais aussi dans l'industrie de la transformation, de la distribution. Et demain, les nouveaux acteurs qui arrivent, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, ce sont les grands acteurs du numérique. C'est eux les plus gros investisseurs aujourd'hui dans le système alimentaire pour le transformer fondamentalement. Et on verra ce que ça peut éventuellement vouloir dire. Donc on est dans un système qui apparaît en fait non durable de plein de points de vue, pas uniquement environnemental, mais aussi du point de vue sanitaire et du point de vue socio-économique. Un mot sur le coût de ça, parce que c'est intéressant de commencer à calculer combien ça coûte à la société d'avoir une alimentation très peu chère. Donc il y a plusieurs études, mais ce n'est pas forcément la peine d'essayer de regarder dans les détails. Je vous ai mis une publique, vous trouvez facilement sur le site de la chaire UNESCO qu'on fait une synthèse, mais pour 100 euros que vous achetez, il y a entre 100 et 200 euros de coût pour la société. Grosso modo, 40% en coût environnemental, 40% en coût sanitaire. Ça veut dire qu'en fait, vous payez votre alimentation pas cher, mais qu'en fait, elle coûte à la société. Donc tout l'enjeu maintenant, c'est de révéler ces coûts cachés, comme on les appelle, et de voir comment on peut économiser des coûts cachés pour les retransférer, plutôt que d'avoir des budgets santé et des budgets environnement qui explosent, de les utiliser pour financer une transition du système alimentaire. C'est à ça qu'on travaille actuellement. Je vous ai ajouté le dernier rapport de la FAO, le fameux SOFA, le State of Food and Agriculture, qui pour la première fois vient de calculer pour tous les pays du monde le coût des externalités négatives, les coûts cachés, et qui évalue à 10% à l'échelle mondiale, 10% du PNB mondial. Ce sont les coûts générés par le système alimentaire. Plus important d'ailleurs dans les pays à faible revenu, c'est important de le noter, en France, 177 milliards de dollars par an comme estimation des coûts cachés. Ce type de données, c'est intéressant parce qu'elles font bondir quand même les politiques pour se rendre compte qu'effectivement, l'accroissement des dépenses de santé et l'accroissement des dépenses de réparation environnementale, alors les dépenses publiques estimées à 23 milliards d'euros en France par an, en fait, pourrait peut-être être utilisé pour financer une transition du système. Dernier petit point, c'est que on a mené il y a quelques années avec une série de collègues spécialistes des différents types de problèmes qu'on a, climatiques, la biodive, les pollutions, les risques sanitaires et nutritionnels, les risques économiques, les risques liés aux migrations, etc. Un travail pour évaluer où on en est sur les risques à l'échelle de tous les pays du monde et plus particulièrement, nous avait demandé la Commission et la FAO à l'échelle de la zone intertropicale, à l'échelle des pays dits en développement. Et c'est très intéressant de voir que quand on fait les cartes de ces risques-là, en fait, les zones de risque, point par point, se superposent et qu'on voit que là où il y a de la superposition de risque, il y a du collapse, il y a de l'effondrement, il y a de la migration. Et qu'en fait, on a des zones... en particulier dans la zone intertropicale, qui sont plus vivables et qu'on voit bien qu'on a eu tendance à raisonner les risques de façon très indépendante et qu'il faut maintenant être capable de raisonner leur combinaison. Dernier point sur l'état des lieux, c'est ce que nous a révélé le Covid et la crise et la crise liée à la guerre en Ukraine, la crise des prix, l'augmentation des prix, c'est notre extraordinaire ou l'extraordinaire dépendance du système alimentaire industriel vis-à-vis de systèmes techniques et vis-à-vis d'acteurs sur lesquels on n'a plus de pouvoir, on n'a plus de prise, on n'a plus de contrôle. Ce sont les industries des énergies fossiles. On est complètement dépendant du prix du pétrole et qui fait tourner l'ensemble du système alimentaire. On est dépendant des entreprises semencières. On est dépendant des industries chimiques et des engrais chimiques et minéraux. J'ai oublié de marquer là qu'on est dépendant des produits, des industries des produits phyto, des produits des maladies qui pour soigner les maladies des plantes, ceux qui ont fait capoter la négociation la semaine dernière et hier à Bruxelles et qui font que le glyphosate va continuer d'être autorisé pendant 10 ans. L'industrie du machinisme, la finance internationale, on est sur des marchés très financiarisés. Et puis les nouvelles dépendances qu'on craint vis-à-vis en fait, de l'industrie de l'électronique qui équipe maintenant des tracteurs de l'industrie agroalimentaire jusqu'aux applications pour conseiller les consommateurs sur la façon de mieux manger. Donc tout ça, c'est assez terrifiant, on peut dire. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait à partir de là ? Et j'ai pas fini de pas être drôle. Je voudrais qu'on comprenne que un système alimentaire, on le représente souvent en disant le système alimentaire, c'est l'ensemble des activités qui vont de la production jusqu'à la consommation, avec toutes les activités de transport, de stockage, de logistique à tous les endroits de la chaîne, et puis de gestion des déchets. Donc vraiment. On a tendance à dire le système alimentaire, c'est l'ensemble des acteurs qui voient passer les aliments, les produits et qui les traitent et qui les transforment et qui les jusqu'à leur consommation. En fait, si on raisonne système alimentaire, il faut prendre en compte le fait qu'on a plein de structures et d'institutions qui ont organisé l'industrialisation du système. En France, la gestion du foncier, ça s'appelle la SAFER. Les phytos, c'est les industries des produits phytosanitaires. C'est les entreprises du machinisme, des engrais, j'en ai parlé, des semences. Mais c'est toutes les infrastructures, les marchés de gros, les routes, les magasins de stockage. C'est tout le crédit, c'est le crédit agricole en France, par exemple, d'un côté. Et puis, en choses plus immatérielles, bien évidemment, c'est l'énergie qui fait partie de cette affaire. Et puis après, c'est les industries et les entreprises et les institutions du conseil, de la recherche, de la formation, la législation, les médias, tout ça dédié à la mise en place du système industriel. Mise en place, tout ça s'est mis en place après la Seconde Guerre mondiale. Et donc de comprendre que si on a besoin de changer de système, c'est pas simplement convaincre des agriculteurs de faire de l'agroécologie ou convaincre des consommateurs de manger moins de viande et d'acheter du bio. C'est tout l'ensemble de ces institutions qui portent aujourd'hui un système industriel et qui ont été formatées, construites pour ça. Et donc, c'est la question aussi, c'est comment on transforme tout ça. Et c'est ça qui rend aussi compliqué cette transformation, parce que ce sont des milliers d'agents et d'institutions à des échelles nationales, locales, etc. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont l'opportunité d'aller au Salon de l'agriculture. Quand vous allez au bâtiment 5 du Salon de l'agriculture, le bâtiment des institutions, qui est un énorme bâtiment, vous rentrez là-dedans et vous comprenez à ce moment-là que tout ce système alimentaire, il tient par ces institutions qui sont là, au cœur de ce bâtiment. Il y a le seul stand qui a un étage, qui est le plus haut, qui est le plus visible, c'est le stand de la FNSEA, le syndicat agricole majoritaire dans l'agriculture aujourd'hui en France. Et juste en face, il y a les engrais, à côté, il y a les phytos, il y a le Crédit Agricole, il y a l'INRA, il y a la SAFER, il y a la MSA, la Mutualité Sociale Agricole. Et tous ces gens-là se connaissent, sont dans des combinaisons croisées de conseils d'administration et ils tiennent le système. Et ils sont là pour faire tenir ce système industriel. Donc maintenant, si on a besoin d'en changer, c'est en fait l'ensemble qu'il faut arriver à changer. Et ça, c'est ça qui rend l'affaire difficile. D'autant plus difficile qu'on a là-dedans des acteurs qui sont très puissants et très capables d'empêcher qu'on remette en cause en fait, leur existence et leur fonctionnement. Je vais juste vous donner un exemple. Moi, je travaille avec l'Agro de Montpellier, qui est maintenant fusionné avec l'Agro de Rennes et l'Agro Dijon, avec une directrice générale qui est fondamentalement convaincue qu'il faut faire prendre un virage complet à la formation. Mais quand je lui dis comment on fait pour avoir une conversion et d'avoir une vraie formation en agroécologie, eh ben elle me dit, le problème c'est que moi les agronomes, ils n'ont pas été formés à l'agroécologie, ils ne savent pas faire. Et ce n'est pas en les formant en formation continue qu'on les transforme en écologues. Ce n'est pas du tout le même raisonnement. Donc la seule possibilité de réformer l'enseignement, c'est de recruter des jeunes. On les trouve où les jeunes ? Ah ben, on les trouve pas en France, on les trouve en Californie, on les trouve un peu à Lyon avec l'ISARA, et on les trouve en Australie avec la permaculture. Donc on n'a même pas, c'est ça qui rend compliqué aussi d'arriver à transformer les formations, parce que qui décide des nouveaux postes dans les écoles ? C'est les assemblées de profs, et les assemblées de profs, elles reproduisent en fait le système d'avant, parce qu'ils ont passé 20 ans à monter leur chaire de je ne sais quoi, et qu'ils veulent continuer, recruter leur ancien thésard et de faire durer l'affaire. Donc c'est pour dire que c'est pas juste, c'est des politiques qui n'ont pas la volonté, qui sont pas assez volontaires pour changer, c'est que c'est tout un système qui a été organisé pour ça et qui a du coup du mal à bouger. Mais comment on fait quand même ? Oui, juste un mot quand même pour rappeler qu'historiquement, et ça me semble important, les moteurs de changement du système alimentaire, historiquement, ne sont pas internes. C'est pas à l'intérieur de l'agriculture qu'on a les moteurs du changement, c'est à l'extérieur. C'est la découverte de l'énergie minière, le charbon, le pétrole, l'uranium, le gaz et maintenant les terres rares pour faire fonctionner l'énergie renouvelable, qui ont permis l'industrialisation. C'est pas les agriculteurs qui ont inventé d'autres façons de produire. C'est parce qu'on a eu tout d'un coup l'énergie fossile qui a permis la mécanisation, qui a permis à l'agriculture de ne plus produire de l'énergie et de le laisser à l'énergie fossile. Donc, première source de changement radical du système, il vient de l'extérieur, il vient de l'énergie, il vient de la découverte de la fertilisation minérale. Donc, c'est à la fois... Avant, la fertilisation des sols, elle était assurée par des cycles de biomasse. Les animaux qui transfèrent la fertilisation depuis les zones de pâturage vers les zones de culture, les arbres qui vont chercher les fertilisants profondément dans le sol, qui les ramènent avec les feuilles en surface pour fertiliser la surface, et puis les rivières qui amènent des alluvions. Mais tout ça, c'est un cycle de biomasse et du transfert de biomasse. Et à partir du moment où on découvre les mines de phosphate et les mines de potasse, et ben du coup, on va complètement changer le principe de fertilisation. Mais là encore, c'est pas interne au secteur agricole, ça vient bien de l'extérieur. C'est la chimie, Haber Bosch, phytosanitaire, ça c'est les résultats des progrès de la chimie. C'est la biotechnologie, c'est la génétique, c'est l'apparition des OGM, mais ce n'est pas le secteur agricole qui fait ça, ça vient de l'extérieur. Et puis demain, c'est les progrès de l'électronique et d'intelligence artificielle qui sont capables de totalement bouleverser le système. Donc c'est important d'avoir ça en tête, parce qu'on a toujours l'impression qu'en fait c'est à l'intérieur du système alimentaire ou du système agricole qu'on va changer les choses, en essayant de pousser les agriculteurs, les consommateurs ou les transformateurs, alors qu'en fait, le système il bouge par l'extérieur. Alors, on y vient quand même. Comment on arrive à changer les rapports de force dans le système et comment on essaie de faire bouger ? Je vais être franc. Voilà, en fait, je pense que ça va être difficile, que la bagarre commence. Mais il y a des pistes et c'est là-dessus qu'on essaie de se mobiliser et à se dire qu'on essaie de changer des choses. La première chose, c'est qu'aujourd'hui, le secteur agricole, il est piloté par, on va dire, des bâtisseurs, des bâtisseurs, je dis bien heures, qui ont construit des puissances agricoles et qui sont dans un esprit de bâtisseurs. Quand vous côtoyez le milieu industriel, quand vous côtoyez le milieu des syndicats, c'est des gens qui sont fiers d'avoir bâti des empires importants et que, quand vous allez dans les réunions, que ce soit à la FNSEA ou dans l'industrie agroalimentaire ou dans la distribution, c'est 99% de mecs. Il y a une vraie question sur comment on donne un peu plus de mixité à la gouvernance et en particulier à la tête du système. Non pas parce que par essence les femmes auraient plus de sensibilité dans le care ou dans la... C'est pas par essence, c'est aussi que socialement, c'est aussi comme ça que ça s'est construit et c'est dans le rapport et dans les rapports de genre que se sont construits d'autres types de sensibilité et on le voit tous les jours. Là où les femmes prennent du pouvoir... on voit les choses se traiter différemment. Donc on a un enjeu déjà très important d'arriver à féminiser la gouvernance et en particulier les têtes de gouvernance. Construire des collectifs d'acteurs, en particulier de la société civile, pour essayer de se construire une force politique qui fait bouger le système. Je parle là du collectif Nourrir qui s'est constitué en France l'année dernière. Qui est un collectif d'une cinquantaine d'associations qui militent ensemble et collectivement pour essayer de faire orienter autrement la politique agricole commune, pour essayer de se battre, alors avec le succès extrêmement mitigé, pour ne pas dire totalement négatif, qu'on a connu hier, mais qui arrive quand même sur un certain nombre d'autres points, de gagner quelques points. Mais ça veut dire que c'est très important d'arriver à fédérer ces acteurs pour en faire une force politique. Collectif Nourrir en France, je signale quand même un collectif très intéressant dont le collectif Nourrir est membre, c'est la European Food Policy Coalition, qui est l'idée de créer une politique alimentaire européenne qui n'existe pas aujourd'hui et qui a été initiée par le panel IPES Food avec un certain nombre d'acteurs de la société civile de différents pays d'Europe, avec l'idée de faire émerger une politique alimentaire qui réinterroge la question agricole autrement que la défense de sa productivité et de la rémunération de ses producteurs, et qui est, me semble-t-il, quelque chose qui est en train de faire bouger, qui a beaucoup supporté le projet Farm to Fork, la composante alimentaire et agricole du Pacte Vert de Ursula von der Leyen, qui n'est pas une écolo, pour autant, mais qui a compris que pour essayer de garder les jeunes dans le projet européen, elle avait intérêt à avoir un vrai virage vert. Et elle l'a fait. Et si vous lisez un peu ce qu'il y a dans le contenu de la composante alimentaire et agricole, c'est très, très encourageant. Et la European Food Policy Coalition supporte beaucoup ça. Avec un principal allié au sein de la Commission européenne, on a fait le tour de toutes les directions pour présenter cette idée de politique alimentaire, d'alimentation durable qui a donné aussi, qui a beaucoup alimenté la politique Farm to Fork, de la fourche à la fourchette. Parmi toutes les directions qu'on a vues, toutes sont d'accord, sauf une. Agriculture, c'est la seule qui n'a pas répondu. Et c'est la seule qui est défavorable. Parce qu'elle sent qu'en fait, les milliards de la politique agricole commune risquent d'être reconvertis en besoin de financement de transition alimentaire. Et en fait, celle qui supporte le plus le projet, c'est la DG Santé. C'est Sanko, Santé Consommateur. Parce que je vous ai montré les coûts pour la santé du système alimentaire, c'est les coûts... pour eux, qui sont dramatiques. Et donc, c'est les plus grands supporters. Ce qui veut dire qu'on a besoin d'aller vers une alliance entre les secteurs agricoles et les secteurs de la santé, au travers notamment de ce qu'ils appellent One Health. Les collectivités territoriales, elle était là tout à l'heure, il est là, c'est Lilian Vargas, il y en a d'autres peut-être dans la salle. Non, c'est intéressant parce que depuis 15-20 ans, les villes qui s'occupaient pas vraiment d'alimentation, elles essayaient de régler des problèmes de logistique avec les marchés de gros, pour éviter les engorgements de marchés de centre-ville. Elles essayaient d'attirer les enfants à l'école en ouvrant les cantines, mais elles n'avaient pas véritablement de politique alimentaire. Et depuis, on va dire, une vingtaine d'années, ça a commencé d'abord au Canada, puis en Amérique du Nord, et puis maintenant en Europe depuis une grosse dizaine d'années. Les politiques se dotent, les villes, les collectivités, les métropoles, se dotent de politiques alimentaires. Elle discute de qu'est-ce qu'on fait du foncier, est-ce qu'on continue de construire, est-ce qu'on installe de l'agriculture, est-ce qu'on permet à des gens de pouvoir cultiver des jardins, c'est pas les jardins urbains qui nourrissent les villes, mais ça permet de garder un lien avec ce que c'est que l'agriculture. Elles font de l'urbanisme commercial, où implante-t-on les supermarchés ou les entreprises de la distribution. Est-ce qu'on fait en pied d'immeuble des épiceries ou est-ce qu'on laisse les supermarchés s'implanter en périphérie? Est-ce qu'on aménage des places pour organiser des marchés paysans? Il y a tout un nouveau mouvement de l'urbanisme qui s'appelle le Urban Food Planning et qui s'intéresse en Europe à former les urbanistes à la question agricole et à la question de ce qu'on appelle les paysages alimentaires, les foodscapes, et qui est vraiment intéressant. Comment on fait avec la restauration collective? Ce n'est pas un gros levier, la restauration collective. En France, c'est 2% des repas consommés, hein, la restauration collective. Donc, ce n'est pas des restaurations des écoles, qu'elles soient primaires, secondaires ou tertiaires. Donc, ce n'est pas beaucoup, mais c'est quand même un levier sur lequel les villes essayent de jouer. C'est qu'est-ce qu'on fait des déchets? Qu'est-ce qu'on fait avec la précarité alimentaire? On va y revenir parce que Grenoble s'attaque au problème depuis quelques années et particulièrement actuellement. Donc, elles sont en train de découvrir qu'elles ont des leviers dans lesquels elles peuvent essayer de... sur lesquelles elles peuvent essayer de jouer pour inventer d'autres systèmes alimentaires. Elles ont très peu de pouvoir sur l'agriculture. Les villes, ce n'est pas là où il y a de l'agriculture. Par essence, elles sont nourries d'une agriculture qui est plus lointaine. Ce qui est intéressant, c'est qu'au début, les villes se sont mises en réseau. Et en particulier, il y a eu, au moment de l'exposition universelle de Milan, un accord entre des villes ambitieuses pour créer ce qui s'est appelé le pacte des politiques alimentaires, le pacte de Milan des politiques alimentaires urbaines. Donc au départ, une centaine de villes du monde qui s'étaient engagées dans des politiques d'alimentation durable, qui ont décidé de se mettre en réseau, de se fédérer au travers du pacte de Milan. Et au début, c'était intéressant parce que ces villes, elles faisaient beaucoup d'échanges d'expériences. Tu fais comment pour mettre plus de bio dans ta cantine? Tu fais comment pour garder des terres agricoles ou récupérer des friches? C'était beaucoup de l'échange d'expériences. Et depuis 2-3 ans, ce mouvement est en train de se politiser et en train de dire... On se fédère, on crée des appels collectifs et on commence à essayer de se mêler de la construction des politiques alimentaires à une échelle nationale ou à une échelle supranationale. Donc c'est intéressant parce que c'est là aussi de nouveaux collectifs d'acteurs qui entendent peser dans les négociations. Encore un peu faible, mais n'empêche que ça va dans le bon sens. Et Grenoble est dans le pacte de Milan, la métropole de Grenoble. Oui, oui, absolument. Les crises... sont souvent des moments où on peut essayer de changer les rapports de force, où s'ouvrent des possibilités. En chinois, crise, ça se dit danger et opportunité. Ces deux idéogrammes, Weiji, je ne parle pas chinois, mais ceux-là, je les connais, c'est danger et opportunité. Donc ça veut dire que les crises, c'est des moments où on peut placer des propositions. Et donc, par exemple, le collectif Nourrir commence à se dire, dans les crises qui vont venir, et on en aura malheureusement de plus en plus, eh ben, comment... Quand les crises arrivent, on fait des propositions parce que c'est des moments où les cartes se rebattent. La dernière fois, avec la crise en Ukraine, on n'était pas prêt. C'est le ministre de l'Agriculture qui était prêt et vous avez vu qu'il s'est servi de la crise ukrainienne pour dire on arrête avec l'environnement et on remet en culture les jachères à usage environnemental parce que, soi-disant, si on ne fait pas ça, on va affamer l'Afrique qui ne mange pas de blé ukrainien. Et puis avant, je l'ai dit, une alliance avec le secteur de la santé. J'accélère. C'est quoi cette affaire de démocratie alimentaire qui est l'idée de faire monter les citoyens, les consommateurs, si vous voulez les appeler comme ça, en fait pour changer le rapport de force? Bon, d'abord, c'est le constat du verrouillage du système par un oligopole et la compréhension que quand on met des citoyens en capacité de réfléchir, d'étudier, de débattre et de faire des propositions... Je pense à la Convention citoyenne pour le climat ou la fin de vie. Effectivement, ça ne se traduit pas par une politique révolutionnaire, loin de là. Mais je peux vous dire que le lobby industriel et le lobby agricole a vraiment paniqué avec cette affaire. Ça leur a fait très peur. Et que si se multiplient aujourd'hui des capacités de convention citoyenne où les citoyens réfléchissent et font des propositions, vous ne pouvez pas rester totalement en décalage longtemps avec ça. Et c'est le principe de l'idée... faire monter des capacités citoyennes de contestation du modèle existant et de contestation de l'oligopole qui verrouille le système. Et puis la deuxième chose, c'est la deuxième origine de cette affaire, c'est un très beau travail que je recommande à tout le monde d'aller voir. Il y a quelques vidéos qu'il présente, qui est pour moi absolument exemplaire, qui a été fait par l'Université d'Oxford et par AT Descartes Monde, qui a pendant 3 ans travaillé dans 6 pays du monde à définir par des gens qui vivent la pauvreté qu'est-ce que ça veut dire la pauvreté? Et qui arrive après 3 ans de discussion, d'enquêtes et enquêtes faites par des gens qui vivent des situations de pauvreté dans un débat qui dure 1 an et qui finit consensuellement à arriver à un schéma qu'on ne voit pas ici, mais au cœur du schéma, ce qui est intéressant, c'est ce qu'ils ont appelé le dessaisissement du pouvoir d'agir. Et l'enjeu de la pauvreté, ce n'est pas tant un enjeu matériel d'insuffisance de ressources, d'insuffisance d'argent, d'insuffisance de moyens, ça en fait partie, c'est dans ce qu'il y a autour, mais au cœur, la façon dont les gens qui vivent la pauvreté définissent la pauvreté, c'est une vision complètement politique et non pas une vision économique. Bourguignon, grand économiste français, spécialiste des inégalités sociales, patron de thèse de Piketty, ancien chief économiste de la Banque mondiale, qui a consacré toute sa vie à la question de la pauvreté dans une vision économique, faisait partie du comité scientifique de cette étude. Et à la fin, il avoue, il dit « Toute ma vie, j'ai pris ça pour un problème économique, j'ai pas vu que c'était un problème politique. » Et c'est intéressant parce que ça a fait beaucoup bouger les gens qui commencent à s'intéresser à cette question, de se rendre compte qu'en fait, l'enjeu, c'est de redonner du pouvoir aux gens et pas simplement de leur donner des produits ou de l'argent, même si ça aussi fait partie de ça. Et donc... L'enjeu de cette démocratie alimentaire, c'est effectivement de redonner et de permettre aux citoyens, aux consommateurs, aux mangeurs de reprendre la main sur leur système alimentaire. Concrètement, ce qu'on voit, c'est en train d'émerger, d'une part, historiquement d'abord, ce qui s'est appelé les conseils urbains de politiques alimentaires. Le premier dans le monde, c'est à Toronto, au Canada, parce que la ville de Toronto décide de s'attaquer à la question de l'obésité et de la pauvreté, crée un conseil dans lequel on a des citoyens, on a des agriculteurs, on a des industriels, on a des commerçants, on a des chercheurs, on a des services sociaux, on a des services sanitaires, et collectivement, multi-acteurs, on essaie de définir une politique alimentaire pour sa ville. Aujourd'hui, il y a une centaine de conseils de politique alimentaire. En France, on est arrivé un peu plus tard avec ça, mais c'est quelque chose qui est dans les tuyaux. C'est de constituer de la gouvernance multi-acteur des politiques alimentaires, dans lequel on va essayer de mettre autour de la table une pluralité d'acteurs, comme ça se fait en France, qui s'appelle les projets alimentaires de territoire, les fameux PAT, dans lequel il y a effectivement au cœur du principe l'idée de mettre autour de la table un certain nombre d'acteurs, agricoles, consommateurs, collectivités territoriales, bien sûr, et puis un certain nombre de chercheurs, etc. C'est très variable d'une zone à l'autre. Mais l'idée de co-construire un accord en se disant, bon, vers où on va? Est-ce que c'est durable? Généralement, le constat, il est vite fait qu'en fait, on va au mur. Et comment, à partir de là, on crée une sorte de planification alimentaire pour essayer de reprendre la main sur son territoire et d'essayer de reconstruire quelque chose sur son territoire. Et puis plus récemment, la création des comités citoyens de l'alimentation, c'est-à-dire là, uniquement des mangeurs, uniquement des habitants d'un quartier, d'une ville. Ils sont ou pas choisis au sort, ça dépend des endroits. Ils se réunissent, ils réclament des experts, ils veulent lire, ils veulent apprendre. Ils sont ou pas rémunérés pour ça. Et à partir de là, ils font des propositions concrètes à leur municipalité. Au Québec, c'est déjà très ancien. Ça s'appelle les tables, en fait, j'ai oublié, communautaires de la sécurité alimentaire. Communauté au Canada, c'est les habitants d'un quartier. Donc, au Québec, il y a beaucoup de ces espaces où des citoyens d'un quartier, des habitants d'un quartier, se réunissent régulièrement pour faire des propositions à leur maire. Un arrondissement de Montréal, la proposition qui est remontée, c'est « nos enfants ne sont que entourés de fast-food ». Et une maire qui décide de faire l'interdiction des fast-food dans les lieux fréquentés par les enfants et qui, après 4 ans de bagarre, a obtenu l'année dernière de la Cour suprême du Canada la validité de sa position et de sa politique. Elle a réussi à interdire les fast-foods dans son quartier. Donc on a des choses qui quand même se traduisent politiquement quand on a justement une force politique qui pousse. Et un maire, il a intérêt à être attentif à ce que dit sa population. Et en l'occurrence, c'est le cas. Et puis je vais dire un mot quand même de ce qu'on a mis en œuvre depuis un peu plus d'un an maintenant, le Comité citoyen de l'alimentation de Montpellier. Dans la perspective d'un projet dont vous avez peut-être entendu parler qui s'appelle la sécurité sociale de l'alimentation, je ne sais pas si j'ai besoin de rentrer dans les détails ou si tout le monde est au courant, mais c'est un projet porté par un collectif d'acteurs en France, mais il y a aussi un collectif d'acteurs à Grenoble dont il y a un représentant dans la salle. L'idée, c'est quoi? C'est de rajouter une branche à la sécurité sociale de la santé, une branche alimentaire, avec le principe, c'est que tout le monde cotise, on va dire en fonction de son revenu, on peut débattre comment on le mesure, etc. Mais on va dire, Tout le monde cotise pour constituer une caisse de plusieurs milliards. Et cette caisse, elle donne droit à chaque habitant, quel que soit son revenu, d'avoir un crédit de 150 euros par personne et par mois pour acheter des aliments dans une liste qui est constituée par des comités citoyens. Ce sont les citoyens qui débattent et décident. Alors, il y a des débats, est-ce que ça se fera localement? Et si c'est localement, est-ce que c'est dans une ville, un département, une région ou à l'échelle nationale? Il y a du débat là-dessus. Mais le principe, c'est les citoyens décident, en discutant, sur la base d'informations dont ils disposent, d'accréditer, de conventionner soit des magasins, soit éventuellement des produits. Donc à Montpellier, c'est ce qu'on a mis en place depuis l'année dernière, dans le cadre d'un projet qui s'appelle Territoire à vivre, qui est un projet qui a été financé par le plan de relance, qui a été monté dans 4 villes, Lyon, Marseille, Montpellier, Toulouse. Et à Montpellier, en fait, on avait des animateurs très, très habiles et très diplomates qui ont réussi à mettre d'accord une 15aine d'associations qui œuvraient aux questions, sur les questions de précarité alimentaire dans la ville. Et la proposition de construire un comité citoyen de l'alimentation, aujourd'hui composé de 66 membres. La moitié de ces membres sont en situation de précarité et grave précarité alimentaire. L'autre moitié sont des habitants plus aisés, qui se réunissent depuis septembre 2022 tous les mois, prochaine réunion demain matin, et qui rencontrent des experts, lisent, discutent, débattent, se confrontent pour élaborer leur proposition. Ça a été d'élaborer une caisse alimentaire commune. Donc une caisse alimentaire, c'est alimenter par des cotisations volontaires de 300 expérimentateurs, grosso modo, et qui payent et qui contribuent à la caisse en fonction de leurs revenus. Il y a eu beaucoup de discussions de savoir comment on établit les tarifs de la cotisation. Moi, j'ai animé cette affaire, c'était extrêmement intéressant de voir à quel point les gens qui sont en précarité alimentaire ont supplié de ne surtout pas avoir de grille. Ils ont dit qu'on préférait avoir des échelles, de se mettre d'accord sur à partir de quel niveau, soit de revenus, soit de reste à vivre, soit de dépenses alimentaires par mois. Je rentre un peu dans les détails, mais je vais passer. À partir de quand on considère qu'on devrait payer plus que ce qu'on va gagner. Donc les cotisations, elles vont de 1 euro à 150 euros par mois et par foyer. Alors évidemment, il y a des foyers petits, des foyers grands, ok. Et chaque foyer a un crédit de 100 euros par mois pour acheter des aliments dans des magasins, marchés, producteurs conventionnés par le comité citoyen qui a élaboré une grille très complète et très restrictive d'analyse sur auprès de qui vous achetez vos produits, comment vous rémunérez les producteurs, à quelles sont les conditions de paiement, comment vous traitez votre personnel, comment vous êtes attentif ou pas aux questions environnementales, aux questions sociales, etc. etc. Et donc, ils conventionnent, ils continuent de conventionner. Chaque quinzaine, il y a des nouveaux magasins qui sont aujourd'hui dispersés dans la ville de Montpellier, dans lequel, eh bien, en fait, on a une monnaie, enfin, on a un système de paiement électronique, la monnaie alimentaire, mais ce n'est pas vraiment une monnaie, c'est juste un système de paiement. Et on a tous les mois, pour les expérimentateurs, on a un crédit de 100 euros. Et on fait nos courses et on peut, si on n'a pas tout dépensé, c'est reporté d'un mois sur l'autre. Ce qui est intéressant, c'est que ça a conduit le comité citoyen à partir du montage de cette affaire-là, de commencer à vouloir comprendre, par exemple, qu'est-ce que c'est la politique agricole commune. Donc réclamant qu'il y ait une journée de formation pour le comité citoyen sur la PAC, comment ça marche, qu'est-ce que c'est, qui est derrière, de comprendre quelles sont les institutions du système agricole. C'est-à-dire, en fait, un comité qui s'est saisi de la question et qui a envie maintenant de rentrer dans la capacité de contribuer à l'élaboration des politiques, avec un maire aujourd'hui qui reconnaît ce comité citoyen comme une composante incontournable de la future gouvernance de sa politique alimentaire, de la politique agroécologique et d'alimentation durable de la métropole. Et donc voilà, avec du coup maintenant des chercheurs qui font une évaluation de l'effet de la mise en place et de ce comité citoyen et de la caisse alimentaire commune, avec une évaluation sur ce que ça provoque, sur le nouveau type de relation avec les producteurs, des producteurs qui viennent rencontrer le comité citoyen, des comités citoyens qui vont rencontrer les agriculteurs, pour lever les malentendus qui sont là. Mais je pourrais revenir après sur les questions sur comment ça marche. Mais voilà, l'idée générale, c'est de... On sait qu'on a, depuis la Seconde Guerre mondiale, on est dans un contrat social qui consiste à produire l'alimentation le moins cher possible sans s'empoisonner à court terme. Qualité sanitaire, prix les plus bas possibles. On voit les dégâts que ça provoque. L'idée, c'est de reconstruire un contrat social dans lequel l'alimentation reprend toutes ces dimensions. C'est pas simplement remplir le ventre avec des nutriments, c'est le plaisir de manger, c'est la façon de créer son identité individuelle, c'est la façon de se relier aux autres. Je fais à manger pour les autres, je fais mes courses, je me synchronise, je fais confiance à des acteurs d'une filière qui me nourrissent. Et donc c'est une façon de se relier aux autres, et puis c'est une façon de se relier à la biosphère. C'est ma façon de me relier aux animaux, c'est la façon de construire des paysages. La planète a été complètement façonnée par l'agriculture. On a fait des haies, on a fait des champs, on a fait des terrasses. Pensez à la façon dont ça a été. Donc si on se dit que l'alimentation, c'est ça, c'est se relier à soi-même, aux autres et à la biosphère, ben, en fait, c'est une façon de repenser le monde par l'alimentation. J'introduisais la réunion d'hier en racontant une anecdote. La région Occitanie, sa présidente lance une convention citoyenne, 120 personnes tirées au sort représentatives des différents milieux de la région, pour leur poser trois questions à ces 120 personnes rémunérées qui vont se réunir plusieurs fois. Comment améliorer le bien-être individuel et collectif? Comment réduire la fracture sociale et territoriale? Et comment redonner confiance dans la société et ses institutions? Donc grosso modo, comment refaire le monde? Les gens se réunissent à Toulouse et pendant une journée, ils commencent à débattre de ces trois questions. Et le soir, les gens de Toulouse me téléphonent en me disant « C'est incroyable, on a fait la convention citoyenne sur ces trois questions-là. Tu sais de quoi les gens ils ont parlé toute la journée ? Ils ont parlé de bouffe. Ils ont parlé de leur confiance dans les institutions qui garantissent ou pas la qualité sanitaire. Ils ont parlé des malentendus entre ruraux et urbains. Ils ont parlé de la précarité alimentaire. Ils ont parlé de leur perte de plaisir. Ils ont parlé de l'absence de culture ou bien des menaces sur la culture. En fait, pour parler du monde, les citoyens, ils peuvent parler facilement et ils se sentent légitimes de parler de ce qu'ils font tous les jours, c'est faire ses courses et manger. Voilà quelques idées. Et je veux vraiment qu'on discute maintenant. Et ce qu'on peut faire, c'est prendre les questions. Ouais. Je vais vous donner des numéros et je réponds par une batterie après.
Bon. Merci beaucoup, Nicolas. Est-ce que l'agriculture, l'alimentation, enfin l'agriculture en général, est-ce qu'elle est... Bon, je sais qu'elle est importante dans les émissions de gaz à effet de serre. Bon, mais je voudrais savoir s'il n'y a pas aussi des aspects où l'agriculture pourrait être positif pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. C'est ça ma question.
Bonsoir. Moi, j'avais une question plutôt sur... je vais la retrouver. C'était plutôt sur la gouvernance des coopératives elles-mêmes et des filières, en fait, si on parle... Parce qu'on parle de démocratie alimentaire et on se place du côté du citoyen. Mais aussi, au sein même des coopératives agricoles, moi, j'ai eu deux expériences qui avaient été marquantes. La première, c'était la commission environnement de Interbev, donc l'interprofession de la viande bovine. Qui défendait le fait de manger moins de viande, etc. Mais en fait, ça n'a pas été accepté par l'exécutif de Interbev, et notamment par Christiane Lambert, qui, à ce moment-là, président de la FNSEA, devait défendre et refuser à la fin de venir à Interbev. Et deuxième chose, c'était au sein de Crystal Union, qui produit des betteraves. Et là, en fait, on avait fait leur stratégie RSE, et la réponse du board à la fin, donc c'était plutôt produire des betteraves bio et tout, enfin, question d'alimentation, mais en fait ils ont refusé catégoriquement de poursuivre cette stratégie. Ils ont payé un cabinet de conseil très cher, hein, quelques dizaines de milliers d'euros, et voilà, ils ont complètement refusé de faire ça. Et je me demande aussi comment créer de la démocratie là-dedans. Et ça fait écho à une sous-question, c'est donc là c'est les grandes villes aujourd'hui qui ont l'air d'avoir un... Les PAT sont partout, mais c'est quand même les grandes villes qui arrivent en fait à toucher ces acteurs des filières agricoles et alimentaires. Et moi, pour le coup, j'avais travaillé dans une petite intercommunalité du Sud Artois, donc dans le Pas-de-Calais, c'est des grands champs céréaliers. Et là, en fait, ces acteurs-là refusent. En fait, ils ne voient pas d'intérêt à participer à ces projets alimentaires territoriaux. Et donc, comment faire en sorte que même ces petits territoires arrivent à toucher ces espaces-là? Désolé pour la question longue.
Moi, j'ai un commentaire et une question. Le commentaire, tu parles de féminisation, enfin, qu'en médecine, on connaît. Et pourtant, je suis... à la FNSEA, c'était une femme avant. Et si, si. Et Ursula von der Meyer, c'est une femme. Donc les gouvernantes féminines, elles sont toutes formatées, j'ai l'impression, hommes et femmes. Alors moi, ma question, je vois pas. Je pense beaucoup à l'éducation, et en particulier des jeunes. Et les écoles, et apprendre à cuisiner. Enfin, moi, cette dernière partie m'a beaucoup plu. L'alimentation, c'est du plaisir, c'est de la convivialité, etc. Et peut-être que là, il y a un biais, parce que c'est la deuxième partie qui est intéressante, le drame de la première. Bon. Et voilà, éducation des enfants, éducation populaire, convention citoyenne, mais les écoles et apprendre à cuisiner avec des produits naturels et pas travaillés.
Merci pour la présentation. Pour changer de système, j'ai l'impression que la question fondamentale est qu'est-ce qu'on finance ? Et donc, comment on change la politique agricole commune qui semble, à l'heure actuelle, verrouillée à financer le système agro-industriel ?
Et juste à la fin, vous avez évoqué que les citoyens parlaient du rapport entre le monde rural et le monde citadin. Et donc, ma question, c'est est-ce que vous pourriez développer certaines initiatives ou idées pour recréer ce lien entre le monde rural et le monde citadin par les transitions agricoles et alimentaires, justement ?
Peut-être je commence et puis après, il y aura peut-être d'autres batteries de questions. Est-ce que l'agriculture peut contribuer à réduire les émissions ? Oui, elle peut capter du carbone. Elle peut capter du carbone par de la forêt quand elle pousse, pas une fois qu'elle est grande. Et elle peut capter du carbone dans les prairies. Donc il y a un mouvement qui a été créé par Stéphane Le Foll, l'ancien ministre de l'Agriculture, qui s'appelle 4 pour 1000. Qui est une façon de dire, voilà, les prairies et les forêts pourraient contribuer à capter du carbone et à construire des puits de carbone. Et donc, effectivement, c'est une piste vraiment intéressante sur laquelle il faut quand même avouer qu'aujourd'hui, les chercheurs ont un peu de mal, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas bien à savoir comment de bonnes conduites de prairies ou de bonnes conduites agricoles peuvent maximiser la captation du carbone. C'est très compliqué, mais c'est un sujet qui est très nouveau. Et c'est quand même pas mal de voir qu'aujourd'hui, il y a quand même de l'argent qui est mis dans la recherche pour essayer de mieux voir, de mieux comprendre par quel mécanisme on pourrait maximiser la captation du carbone dans l'agriculture. Et déjà aussi de réduire les émissions, parce que les émissions de N2O et les émissions de méthane, c'est quand même des gros, gros contributeurs. Donc oui, il y a bien une capacité. Et Le Foll a monté ça, en fait, aussi parce que dans les COP, dans les négociations climat, il n'y avait pas de dossier agricole. On ne parlait pas d'agriculture. Et donc, ça a été un moyen de dire, pour amener la question agricole dans les négociations climat, mais du coup, pour faire prendre conscience que l'agriculture est très émettrice, hein, c'est 30% des émissions de gaz à effet de serre, c'est le système alimentaire. Bon, ça n'a pas plu à certains qu'on vienne dire que l'agriculture est responsable du changement climatique en partie. Et donc, il l'a fait de façon assez maillée en disant non, mais l'agriculture, elle peut capter du carbone. Et c'est comme ça qu'il a réussi à introduire l'affaire. Bon, je ne sais pas si vous avez suivi qu'à la prochaine COP, ça va être le thème central, un des thèmes centraux de la DEGO, sauf qu'on a une nouvelle proposition qui est arrivée des pays du Golfe, qui s'appelle la troisième révolution agricole et qui s'appelle les nouvelles façons de faire de l'agroécologie avec une fuite en avant technologique. Aujourd'hui, l'Arabie Saoudite est porteuse d'un projet qui s'appelle NEOM. Vous pouvez aller voir sur le net. NEOM, c'est l'idée de construire une nouvelle ville, mais derrière, de financer à coût de milliards de nouvelles façons de produire de la protéine, des lipides à partir de nouveaux substrats, à partir d'une maîtrise moléculaire. Donc une production industrielle, non pas d'aliments, mais d'ingrédients alimentaires, qu'ils proposent ensuite à l'industrie de façonner, colorer, assembler, pour en faire des aliments mangeables, agréables au goût, agréables sous la dent, mais qui sont des produits très industriels. Mais l'histoire de l'agroalimentaire, c'est déjà ça, hein. C'est qu'on a appris à transformer des pommes de terre en chips et des choses qui n'ont pas forcément grand-chose à voir avec la matière première de départ. Donc ça, c'est à surveiller de très près, parce qu'arrive maintenant sur la table une nouvelle proposition d'agroécologie que notre ancien ministre de l'Agriculture de Normandie a appelée la troisième révolution agricole à coup de génétique, robotique et numérique. la gouvernance des coopératives agricoles et le blocage, bah oui, oui, mais en fait, on ne gagne pas partout et les rapports de force sont très, aujourd'hui très défavorables. Souvent, j'ai l'impression, quand on discute avec des acteurs de la transition alimentaire, qui pensent que l'enjeu, c'est de convaincre. C'est qu'il faut convaincre les politiques, c'est qu'il faut convaincre les chefs d'entreprise, c'est qu'il faut convaincre les agriculteurs. Et le problème, c'est, me semble-t-il, ce n'est pas vraiment de les convaincre, parce que les politiques, les agriculteurs ou les entreprises agroalimentaires, elles savent. Moi, je discute beaucoup avec des industries agroalimentaires. Ils disent qu'ils vont au mur. Ils le savent. Le problème, c'est qu'ils ne savent pas comment changer. Et ils ne savent pas aussi comment changer, à la fois parce que le système, il est installé, comme j'ai montré, autour par plein d'institutions. C'est compliqué de trouver des gens formés. C'est compliqué d'avoir de l'argent pour des choses risquées. C'est compliqué d'avoir de l'assurance. Les nouveaux agriculteurs qui s'installent, ils n'arrivent pas à avoir accès à la terre. Ils n'arrivent pas à avoir accès au crédit. Ils ne sont pas à la MSA. Donc, parce que le système qui est installé n'est pas favorable à ces nouvelles façons. Après, c'est se battre pour se dire il faut raisonner rapport de force, il faut raisonner construction de force qui sont capables, fédérer, d'arriver à peser, faire des alliances entre le milieu agricole et le milieu de la santé, faire des alliances avec les villes, faire des alliances avec, et faire monter les citoyens dans la bagarre. Mais c'est sûr que le rapport de force aujourd'hui, il est extraordinairement défavorable. En témoigne ce qui s'est passé hier à Bruxelles avec le glyphosate. Je ne suis pas sûr que les petits territoires soient forcément réticents. La vallée de la Drôme est un cas vraiment intéressant d'une vallée en déprise agricole dans les années 60 et 70. La terre est pas chère, les Néerlandais et les Belges viennent s'installer, se mettent à faire de l'agriculture biologique. Tout le monde se moque d'eux et tout le monde rigole en disant qu'ils n'y arriveront pas. Ils font la preuve qu'ils y arrivent et ils font aussi finalement la preuve que ben, on peut essayer de construire un territoire qui est plutôt rural, hein, du Diwa jusqu'à Cray, ben, qui est plutôt un territoire qui aujourd'hui s'appelle la Biovallée, enfin, c'est l'association qui fédère tout ça, et qui a plutôt fait la preuve que, ben, à partir d'un changement agricole, ils ont aussi raisonné le transport, ils ont raisonné la cantine, ils ont raisonné le recyclage, installé des entreprises de recyclage. Donc moi, ce que je vois, c'est quand même des territoires ruraux qui essayent de se fédérer. C'est sûr que dans le Nord, avec les betteraviers, c'est plus compliqué, c'est plus lourd. Et effectivement, le conseil régional Nord-Pas-de-Calais s'y est cassé les dents c'est les années précédentes. Mais est-ce qu'il faut éduquer les enfants? Enfin, il faut éduquer les enfants à l'école, il faut leur apprendre à cuisiner avec des produits naturels. Ça dépend qui va cuisiner, je dirais, quand même. Moi, je travaille avec des anthropologues au Maroc sur la question de comment les hommes et les femmes se représentent la bonne alimentation. Les hommes sont unanimes pour dire que la bonne alimentation s'appuie sur le savoir-faire des femmes, qui ont un savoir-faire ancestral, qui est la culture marocaine. Elles font des très bons plats et que ça, il faut le valoriser, il faut le mettre en avant. Et surtout, il faut laisser les femmes continuer à cuisiner. Quand on interroge les femmes, elles disent que ça, elles n'en peuvent plus, que ce qu'elles veulent, c'est des pizzas, des trucs rapides à décongeler ou à réchauffer. Et qu'en fait, cet enfermement dans lequel on les a mises, de maintenant valoriser la cuisine comme le nouveau moyen de garder ses traditions, ben non, elles n'en veulent pas. Et je vous donne un autre exemple que je trouve intéressant. C'est l'exemple de ce qui se passe à Rio, au Brésil, avec l'apparition, grâce aux réseaux sociaux, alors généralement de femmes, qui ont 5 personnes à nourrir et qui cuisinent pour 10 ou 15. Et qui, en début d'après-midi, mettent sur WhatsApp ou sur Facebook, aujourd'hui j'ai cuisiné tel plat et j'ai 10 portions à vendre à tel prix. Et en fait, vous êtes au boulot, vous n'avez pas le temps de cuisiner. Vous regardez vos voisines ce qu'elles ont cuisiné, vous choisissez, vous dites je réserve 2 portions. Et vous rentrez chez vous, vous passez chez votre voisine, vous récupérez 2 portions, vous les mettez au four à micro-ondes et vous avez bien mangé. Et ce n'est pas des snacks, c'est de la super bouffe. Et c'est vraiment intéressant parce que ça veut dire qu'on est en train de voir la marchandisation de la dernière étape du système alimentaire qui restait domestique, qui était la cuisine. En Indonésie, j'ai encadré une thèse sur les quartiers les plus populaires de Jakarta, ceux qui sont sous l'eau pendant les inondations, là. Et bien, quasiment plus personne ne cuisine, sauf quelques personnes dans le quartier qui cuisinent pour tout le monde et qui vendent des portions de plats. Et pourquoi pas? Ça fait du lien, ça maintient de la cuisine, pas forcément que traditionnelle, mais ça est aussi des innovations culinaires urbaines. Et donc, ça veut dire qu'on a quelque chose qu'il faut, bon, qui est un peu inattendu. Et c'était très intéressant parce que j'étais à un congrès au Brésil avec Monteiro, qui est un nutritionniste qui a découvert la question des produits ultra transformés et qui montre que quand on fait des analyses épidémiologiques, plus vous mangez des produits ultra transformés, plus vous avez des risques. Enfin, il y a une corrélation statistique entre niveau de consommation des produits transformés, très transformés, et niveau d'un certain nombre de pathologies. Sans qu'on en comprenne aujourd'hui encore les mécanismes. Bon, il y a vraiment des choses nouvelles qui arrivent avec ce qu'on appelle l'effet matrice, mais bon, il montre une corrélation. Il fait un super PowerPoint avec tous ces chiffres. Il y a 1000 personnes dans le grand amphi de l'université de Porto Alegre. Et à la fin, il dit, ce qu'il faut, c'est faire de la cuisine. Et hop, il y a une diapo et on voit qui ? Une femme en train de cuisiner. Et là, il y a toute la salle qui gueule en disant, mais non, mais on veut pas ça. Donc oui, ok, on peut se remettre à la cuisine, mais ça dépend qui cuisine. Et puis, il y a peut-être aussi des choses qui sont en train d'émerger et qui peuvent être aussi intéressantes. Quand on interroge les femmes qui font ça à Rio, elles vous disent, c'est extrêmement intéressant parce que je paye, du coup j'achète en demi-gros. Le coût de revient de mon plat pour ma famille, il est atténué par le fait que j'ai vendu une partie de ma nourriture, une partie de ce que j'ai cuisiné, avec des économies sur la cuisson, des économies d'échelle en termes de cuisson, d'autant plus depuis que les prix ont augmenté. Et quand vous interrogez les consommateurs, ils vous disent « mais c'est complètement génial, c'est pas cher, incroyablement pas cher, et c'est super bon ». Et on discute avec un architecte de Rio, que je rencontre à mon passage là, il me dit maintenant moi dans les immeubles classe moyenne, je fais deux cuisines. Je fais la cuisine du lundi au vendredi, grosso modo c'est une table avec un four à micro-ondes, et je fais la cuisine du samedi, la cuisine de monsieur. Monsieur va faire les courses le matin au marché et il prépare à manger à midi et on en entendra parler pendant 2 mois. Et en fait, c'est intéressant parce qu'il y a une espèce de dissociation qui se joue aujourd'hui entre une cuisine, on va dire, domestique plutôt festive et une cuisine quotidienne dans laquelle on a abaissé la charge mentale en confiant en fait à des voisines. Donc quand j'ai présenté ça au ministère de l'Agriculture, il y avait le directeur général de l'alimentation qui était là. Il me dit, mais il contrôle la qualité sanitaire comment ? Et je lui dis, bah, en fait, il contrôle la qualité sanitaire à coup de notation sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que Madame Rosa, elle fait une feijoada d'enfer et elle a 2000 personnes qui disent qu'elle est d'enfer et qu'ils n'ont jamais été malades. Donc j'ai dit, bah, c'est peut-être ça aussi les modèles. Donc il faut qu'on pense aussi à une évolution peut-être très fondamentale de nos rapports. La PAC, la politique agricole commune, c'est un peu plus de 9 milliards d'euros par an pour maintenir le statu quo dans l'agriculture. Le collectif avant, le collectif nourrir, le collectif pour une autre PAC, qui s'est élargi maintenant pour s'appeler le collectif nourrir, a essayé de se battre sans succès, on le sait. On a perdu la bagarre sur la PAC. Et là, le collectif nourrir se remet en route, un peu renforcé en faisant une alliance avec le secteur de la santé, en faisant une alliance avec les villes pour essayer de préparer une réforme de la prochaine PAC, en préparant aussi une bonne argumentation sur la multiplication des crises qui arrivent. Le rapport de force n'est pas favorable. On le construit, ça va prendre du temps, on rentre dans la bagarre. Mais voilà, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que ça ? De toute façon, on va pas, c'est pas en essayant de convaincre les politiques. Bon, on peut voter. C'est une façon aussi d'avoir des politiques qui sont peut-être plus sensibles, plus courageux et plus prêts à affronter des lobbies, comme certains ministres ont réussi à le faire. Mais en même temps, Stéphane Le Foll était extrêmement volontaire pour imposer de l'agroécologie. Il a réussi à imposer un gros mot. L'agroécologie, c'était un terme dont on n'avait pas le droit de parler au ministère de l'Agriculture. C'était pas autorisé de prononcer ce terme. Il l'a légitimé et il a aussi poussé l'INRA en mettant le gars de son cabinet comme DG de l'INRA, pour arriver aussi à faire promouvoir de l'agroécologie. Donc voilà, c'est une bagarre de tous les instants, à tous les endroits, pour arriver de construire des institutions qui sont capables d'accompagner un autre système alimentaire ou d'essayer de transformer les institutions de l'intérieur. C'est pour ça qu'on a créé un master spécialisé dédié à ça, pour infiltrer tous les endroits qu'on peut dans la société de genre Lénie Moulin qui est là-bas, ancien étudiant qui tient le bar radio aujourd'hui à Grenoble, et pour avoir comme ça des gens qui à tout niveau expérimentent, influencent, étudient, et pour essayer de faire bouger le système. Des expériences de rapports, de nouveaux rapports ruraux citadins. Rennes, la métropole de Rennes avait une inquiétude sur la qualité de son eau potable et a proposé en fait de financer de l'aide à la conversion à l'agriculture biologique des agriculteurs qui se situaient au-dessus des zones de collecte de l'eau potable qui approvisionne Rennes pour se garantir une qualité acceptable de l'eau potable. Donc en fait, une ville s'est mise à financer des conversions en agroécologie. Et aujourd'hui, Rennes, ça s'appelle Terre de Source, le projet, vous pouvez la regarder. Et aujourd'hui, en fait, ils dépassent les zones de captage de l'eau et en fait, ils s'engagent dans l'idée de passer des contrats avec des agriculteurs y compris qui sont hors de leur propre territoire. Ils ne sont pas dans la métropole, ils sont quand même plus loin. À Montpellier, on est en train de construire ce qu'on appelle des contrats de solidarité entre la métropole de Montpellier et ses territoires nourriciers. Donc on essaie d'identifier d'où vient la nourriture qui arrive à Montpellier, qui sont les agriculteurs et comment on peut les accompagner pour une transition agroécologique, pour se garantir un approvisionnement de produits de meilleure qualité. Comment les soutenir dans la crise du bio ou comment les soutenir par la création d'infrastructures qui leur permettent de commercialiser leurs produits, par exemple des abattoirs mobiles pour permettre aux éleveurs, mais qui peuvent être plus loin, qui ne sont pas du tout dans la périphérie de Montpellier, mais qui sont plus loin pour arriver à se connecter avec eux. Et puis, j'étais à Barcelone en début de semaine. Là, il y a des projets intéressants autour des glaneurs. Donc ça s'appelle Espigoladores, je ne sais plus comment on dit en espagnol, qui veut dire les glaneurs, où en fait des agriculteurs qui ont des risques d'invendus, des produits qui ne sont pas complètement calibrés par rapport au marché, ou tout d'un coup une surproduction et un marché qui ne suit pas avec un supermarché qui vous a refusé des lots, font appel à cette association qui envoie des citadins pour aller ramasser de ce qui risque d'être des invendus ruraux. Et avec ça, ça approvisionne des unités de transformation qui font des purées, des confitures, qui font des tas de produits en économie sociale, entreprises d'insertion. Mais ça a enclenché en fait une dynamique d'échange entre citadins et agriculteurs, avec des citadins qui vont maintenant visiter les agriculteurs, des agriculteurs qui viennent expliquer aux citadins leurs contraintes et leurs problèmes, et donc voilà, d'organiser des espaces d'échange et de lever des malentendus entre citadins et entre consommateurs qui comprennent plus grand chose à l'agriculture et agriculteurs qui comprennent plus grand chose aux citadins. Voilà, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions ou Lilian, si tu veux dire des choses aussi.
On va reprendre une autre salve.
Merci beaucoup, c'était très très intéressant. Vous avez parlé des externalités négatives de l'alimentation industrielle, du système agricole industriel. Est-ce que vous savez s'il y a des travaux qui sont menés sur la quantification de ces externalités négatives, ou alors au contraire sur la quantification des externalités positives qui vont être induites par des pratiques agricoles comme l'agriculture bio par exemple, et surtout de leurs répercussions sur le coût final des produits, parce qu'aujourd'hui c'est des coûts qui sont totalement invisibilisés et ça porte préjudice aux pratiques qui sont vertueuses et ça creuse aussi forcément la précarité aussi alimentaire de qualité. Du coup voilà, je me demande s'il y a des travaux qui sont faits là-dessus et si ça a des chances d'aboutir un jour sur quelque chose. Merci.
Bonsoir, vous avez parlé des caisses alimentaires communes à Montpellier. Je voulais savoir si vous aviez d'autres exemples d'initiatives pour accompagner l'alimentation durable pour les personnes précaires et est-ce que c'était quelque chose qui était pensé politiquement ?
Oui, merci. Moi, je voulais savoir, quand vous parlez avec les agriculteurs, pas forcément les grands groupes, mais des agriculteurs de taille moyenne, de toutes ces questions, et qu'est-ce qu'ils expriment d'être dépassés, d'être conscients ou pas ? Enfin, c'est quoi leur réaction ?
Donc Gaël, collectif SSA, justement, qui suit de très près le projet de la ville. Je suis dans plein truc au lieu association par exemple qu'on évoquait au début et assemblée des communs. Et à travers tout ça, moi je retrouve un axe qui n'a pas été très explicité mais qui est très présent. C'est la notion de commun justement. Donc c'est la troisième voie entre le marché privé et la force publique. Institutionnelle et qui est souvent l'institution pense qu'il maîtrise des choses mais en fait il maîtrise plus grand chose maintenant. Voilà, je mets un peu les pieds dans le plat volontairement. Voilà, donc est-ce que cette notion des communs est pas un axe principal, ça a été dit sur la caisse alimentaire de commune justement. Voilà, et communale voire.
Alors moi, bonsoir. Moi, je reviens sur les contraintes budgétaires. On sait que c'est assez criant en France, c'est-à-dire que le secteur de la dette est quelque chose qui pèse, on nous annonce 50 milliards par an. Et justement, le fait que la santé soit une grosse partie finalement des dépenses publiques, est-ce que finalement le secteur de la santé ne pourra pas peser pour une meilleure agriculture qui, elle, pèse finalement moins en termes de milliards, là vous parlez de 9 milliards pour l'ensemble de la PAC en France. Donc est-ce que vous avez des pistes là-dedans, le fait que finalement d'autres ministères puissent peser beaucoup plus sur l'agriculture en termes de budget, enfin par ce biais-là, pour changer un peu l'agriculture. Et j'avais une deuxième question. Je voulais juste savoir quelle était la réaction du monde agricole face à la création des caisses alimentaires. Merci.
Voilà. Moi, j'ai une question très naïve. On nous a dit que l'agriculture industrielle permettait de nourrir tout le monde grâce à la productivité. Et moi, j'ai vu passer, mon père travaillait dans le domaine et on a vu passer la productivité du blé de 10 quintaux à l'hectare, aujourd'hui une centaine de quintaux à l'hectare. Ma question est toute naïve, est-ce que l'agrobiologie permet de nourrir tout le monde ?
Bonsoir. Je voudrais apporter une remarque et une question et votre avis sur le sujet. Alors, je suis agriculteur et élu territorial, donc je le dis parce que c'est intéressant d'entendre qu'on parle beaucoup d'agriculture et c'est normal puisqu'on nourrit les gens. Donc c'est plutôt honorable pour nous. Dans votre intervention, qui est très intéressante et que je partage, on a assez peu finalement parlé de l'agroalimentaire et de l'industrie. Alors on en a parlé, mais entre ça et la distribution, quel pouvoir on essaye de reprendre et comment on essaye de le reprendre, puisqu'aujourd'hui la distribution fait la pluie et le beau temps depuis des lois qui doivent dater de 72, je crois, où on a donné le pouvoir à la distribution de défendre le pouvoir d'achat des consommateurs. Et depuis, voilà, on en est là. Et moi, j'aimerais qu'on en enlève du pouvoir pour en redonner aux citoyens. Parce que, en tant qu'agriculteur et producteur de lait, on a très mal vécu ce pouvoir-là et on le vit toujours très mal. Et finalement, on parlait beaucoup d'agriculture, d'alimentation, ce qui est normal, du consommateur. Et moi, je me demande si, en attendant que tous ces collectifs de citoyens consommateurs prennent le pouvoir sur leur destin alimentaire, on n'a pas un levier, nous, en tant que consommateurs, parce que je suis agriculteur, mais je suis aussi consommateur, tout de suite, dans l'acte d'achat. On parle très, très rarement de l'acte d'achat de chacun d'entre nous, tous les jours, en faisant nos courses. Mais on sait très bien que le consommateur a un pouvoir phénoménal sur la distribution de ne pas acheter ce qu'on n'a pas envie d'acheter. Et la distribution sait changer ses produits dans ses rayons lorsque ça ne se vend pas. Et c'est quelque chose qui est assez peu évoqué. Et pour illustrer ma question, et ça m'intéresse d'avoir votre avis là-dessus, c'est que depuis, avec un groupe d'une dizaine d'agriculteurs sur le territoire du sud de Grésivaudan où je réside, on a créé 4 magasins de producteurs. Avant le Covid, on avait autour de 10-15% de progression dans nos magasins. Avec le Covid, on est passé à 30% pendant la période Covid. On a des voisins qui ont découvert le fait qu'on soit agriculteur et qu'on pouvait les nourrir. Même en milieu rural, ça existe. Et depuis qu'on a réouvert les portes du Covid, entre guillemets, on est retombé à une croissance modérée, on va dire, à 10%. Voilà. Et ça veut dire que le consommateur... alors, parlons pas de ceux qui n'ont pas les moyens ou de ceux qui ont des situations difficiles. Ça, on doit en discuter autrement. Mais pour une grosse majorité des consommateurs qui ont les moyens de bien se nourrir... Eh bien, on voit que l'influence de la communication, de la distribution, de l'électronique, de tous les sujets que vous avez parlé, autres qu'agricoles, est très important. Et je pense que si tous les consommateurs qu'on ait changé son acte d'achat en l'espace de 1 an ou 2, on pourrait faire enlever du pouvoir à tous ceux qui sont entre nous et le consommateur.
Oui, je voulais savoir comment on s'attaque au deuxième étage du salon de l'agriculture, de la FNSEA, comment on aborde les pouvoirs de cette institution qui chapeaute tout le salon de l'agriculture.
Je peux répondre si vous coupez l'enregistrement.
On peut faire ça.
Est-ce qu'on commence à quantifier les externalités négatives ou positives et les conséquences sur le coût final ? Il y a un travail qui est en cours, qui a été sollicité par le Secours catholique, Caritas France et la FRCIVAM, qui a été confié au bureau le BASIC et qui fait actuellement, alors pas exactement le coût des externalités négatives, mais le coût en termes de dépenses publiques à la fois de l'État et des collectivités territoriales, pour réparer, on peut dire, l'environnement et réparer la santé et compenser aussi les sous-revenus, notamment dans le monde agricole et dans le salariat du système alimentaire. Donc c'est vachement compliqué à faire, c'est un épluchage extrêmement fin des comptes publics, on a du mal hein, à arriver à ça, mais ça devrait sortir, alors ça devait sortir pour le salon de l'agriculture 2024, Puis en fait, là, la semaine dernière, on s'est rendu compte qu'on n'y arriverait pas. Donc ça va sortir en 2024. Donc il faut surveiller les travaux du Secours catholique, du bureau Le Basic, qui est spécialisé dans ce genre de choses. Mais donc il y a bien ça. C'est plus d'ailleurs des quantifications des externalités négatives pour le moment. En fait, l'idée, c'est de pouvoir dire au gouvernement, ben, en fait, vu les surcoûts que vous avez, vu les coûts en termes de dépenses publiques que vous avez en termes de santé et d'environnement, vous pourriez les réallouer à une transition alimentaire pour, du coup, transférer, en fait, faire du transfert budgétaire. Est-ce qu'il y a d'autres initiatives que la Caisse alimentaire de Montpellier pour travailler sur la lutte contre la précarité alimentaire ou, on va dire, l'avènement d'une démocratie alimentaire ou d'une solidarité alimentaire? Oui. Bon, d'abord, il y a d'autres expérimentations qui se sont lancées. Il y en a à Toulouse, il y en a à il y a Grenoble qui va s'y mettre, là, avec un, en principe un gros budget, hein. Le maire Piolle a annoncé 1,3 million pour constituer une caisse alimentaire commune. Il y a Bordeaux, Hidalgo, elle aimerait bien aussi que ce ne soit pas que les régions qui le fassent. Donc elle veut aussi essayer de le faire à Paris. Donc ça se multiplie. Donc il y a ça c'est les caisses alimentaires communes. Il faut les citer, ce qui s'appelle les groupements d'achat de l'association VRAC, qui est née à Lyon il y a 10 ans. Ce sont des groupes de gens dans les quartiers prioritaires de la ville qui décident de commander dans un catalogue de produits, de référence, que des produits bio vendus à prix coûtant et qui, tous les mois, viennent chercher leurs commandes dans une épicerie éphémère, une épicerie installée dans un centre social pour la journée, et viennent chercher les commandes. Et en même temps, discutent et orientent progressivement le catalogue. Donc ça démarre avec un catalogue existant. On achète les produits en demi-gros, et sans emballage, les gens viennent avec leurs emballages. Donc c'est ça qui permet déjà d'avoir des prix, des produits bio pas chers. Il n'y a aucune négociation avec les agriculteurs. Ce sont eux qui nous disent les prix qu'ils estiment rémunérateurs. Et donc, à partir de là, comme on achète en demi-gros et qu'on vend sans emballage, on arrive à avoir des prix modérés. Ça ne permet pas à tout le monde d'accéder à des produits bio. Il y a des gens qui n'ont pas assez d'argent pour ça. Et c'est aussi des espaces en fait, de convivialité dans lesquels il y a beaucoup de mixité sociale. Il y a des concours de cuisine, faire venir des grands chefs pour évaluer la cuisine des gens en précarité et pour montrer qu'en fait les gens en précarité, ils n'ont pas besoin de leçons de cuisine et qu'ils savent parfaitement cuisiner. Certains ne savent plus, ok, mais en général, ils sont tout à fait capables de cuisiner. Donc aujourd'hui, il y a 18 associations VRAC, 17 en France, une en Belgique. Dans chaque association, après, ça supporte plusieurs groupements. À Montpellier, on a 5 groupements dans différents quartiers prioritaires de la ville ou villages périphériques de la ville. Et voilà, vous voulez regarder VRAC Association. Ça me paraît aussi intéressant. Il y a les jardins de Cocagne qui font aussi, au travers de jardins, de l'accès à des fruits et des légumes. Il y a un collectif, en fait, qui s'est constitué en France, où on retrouve le Secours catholique, VRAC, UGES, l'Union générale des épiceries sociales et solidaires, Jardin de Cocagne, j'ai peur d'en oublier, je pense qu'il y en a un cinquième, j'oublie. Qui ça? Les Sivam, bien sûr, merci Léni, qui ont constitué un collectif pour pousser, et ça répond à une autre question, pour pousser le ministère des Solidarités à réformer la politique de solidarité alimentaire, qui aujourd'hui est essentiellement consacré à défiscaliser les supermarchés qui donnent leurs invendus ou probables invendus aux associations, aux banques alimentaires et aux associations d'aide alimentaire, avec tous les problèmes que ça pose de mauvaise qualité des produits, mauvaise qualité nutritionnelle, mauvaise qualité gustative. Et puis on impose à des gens des paniers qui ne savent pas forcément cuisiner, en tout cas qu'ils n'ont pas forcément envie de manger. Et donc ils sont complètement assistés par les associations d'aide alimentaire. Alors dans les situations d'urgence, c'est nécessaire. Le problème, c'est que c'est devenu le seul moyen d'assurer de la solidarité. Il y a beaucoup de travaux. Je vous recommande la lecture d'un bouquin qui est très, très fort à lire, qui s'appelle « Se nourrir lorsqu'on est pauvre » et qui dénonce à longueur de page la violence de l'aide alimentaire telle qu'elle se pratique aujourd'hui. Donc ces associations sont organisées à partir d'expérimentations de situations de façon alternative d'être solidaire, en redonnant de la dignité aux personnes, leur permettant de choisir, proposant le passage d'une aide en produit à une aide budgétaire qui permet aux gens de pouvoir acheter ce qu'ils veulent sans avoir à contrôler ce qu'ils font et la façon dont ils cuisinent. Donc ça, c'est intéressant. C'est très compliqué parce qu'il y a un lobby extrêmement fort des associations d'aide alimentaire hein, qui font tout pour essayer de s'aborder ce type d'initiative parce qu'ils se font face à un allongement des queues devant les distributions d'aide alimentaire et qu'effectivement, ils ont besoin de plus d'argent pour avoir plus de produits à distribuer. Et donc, ils préfèrent récupérer la manne qui arrive tous les ans maintenant, 60 millions d'euros par an, pour réformer cette façon de faire de la solidarité alimentaire. Mais sauf qu'en fait, ils s'accaparent aujourd'hui le gros de l'affaire. Que disent les agriculteurs ? En fait, il y a plein d'agriculteurs différents. Et ils ne parlent pas d'une voix. Les relativement âgés qui ne sont pas très loin de la retraite, ils disent déjà que changer quand on a investi depuis 20 ans dans de l'équipement, quand on a construit une exploitation sur un modèle, ben on ne change pas comme ça du jour au lendemain parce qu'il y a un effet d'inertie des investissements. Et puis que quand on est à 5 ans ou 6 ans ou 10 ans de la retraite, ben c'est compliqué de se dire qu'on va complètement changer quand on ne sait même pas forcément qui va reprendre l'exploitation derrière. Dans 10 ans, il y a la moitié d'agriculteurs. La moitié des agriculteurs partent en retraite. C'est la grande question de savoir qui va cultiver demain. Et qui vont être les salariés des fonds d'investissement qui rachètent le foncier aujourd'hui. Est-ce qu'il va y avoir de la place pour des nouvelles formes d'agriculture où on a aujourd'hui des jeunes qui se mettent en collectif, qu'on appelle les slashers, qui veulent travailler à temps partiel dans l'agriculture et avoir d'autres sources de revenus, donc qui sortent d'une idée d'un agriculteur entièrement dédié, définitivement à vie sur son exploitation, et qui disent « moi, je veux bien faire ça 10 ans ». Donc des nouvelles formes très, très différentes et qui ont aujourd'hui beaucoup de mal à être, un, reconnues par la profession, supportées par le système, mais qui préfigurent peut-être aussi un changement de la façon même d'imaginer ce que c'est que l'agriculture, avec probablement aussi un risque d'arriver vers une agriculture de deux types. Une grande agriculture industrielle qui produit à bas coût avec une optimisation grâce aux nouvelles innovations électroniques, optimisation des ressources, mais qui produit de la matière première à très bas coût. Et puis quelques agriculteurs plus proches des consommateurs, travaillant à plus petite échelle, privilégiant du maraîchage, du petit élevage, et qui peuvent rassurer des consommateurs qui ont envie de manger mieux, mais qui ne vont pas forcément le faire sur l'ensemble de leur consommation. Claire Lamine, qui est une sociologue de l'INRA, a travaillé sur ce qu'elle appelle les intermittents du bio. C'est très intéressant. Elle montre qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui consomment un peu de bio. Ça les rassure, ça apaise leurs inquiétudes sur le fait qu'ils s'empoisonnent en mangeant des pesticides, mais parce qu'ils en mangent un peu. Ils mangent un peu de bio, mais qu'en fait, ils ne veulent pas forcément passer à tout bio. C'est trop compliqué, c'est trop cher, donc un peu. Et c'est peut-être ça qui risque d'arriver. On laisse une partie du système alimentaire aux mains du système industriel très, très intensif. Et puis, quelques agriculteurs qui viennent vendre en ville, qui viennent en circuit court, qui font de la permaculture, qui inventent des choses nouvelles avec des produits un peu plus luxueux, un peu plus chers, mais qui permettent de rassurer des consommateurs. C'est tout un enjeu de savoir comment va évoluer cette consommation. Est-ce qu'on peut peser avec le secteur de la santé ? C'est ça qu'on essaie de faire avec le collectif Nourrir, c'est de faire une alliance avec le secteur de la santé. La difficulté qu'on a, c'est qu'en fait, le secteur de la santé en France, il est très dominé par la santé curative. Or, en fait, c'est avec la santé préventive qu'on peut vraiment faire alliance et que contrairement, par exemple, au Canada ou à Québec, où la santé préventive est extrêmement pesante, on peut dire pesante dans le bon sens du terme, nous, en France, on a encore des progrès à faire pour arriver à avoir plus de légitimité et plus de force politique de la part de la santé préventive. Mais n'empêche qu'on est aujourd'hui en dialogue avec le secteur de la santé via la nutrition et via aussi le secteur de la pharmacie et de la question des intoxications alimentaires liées aux consommations de chimie. Comment réagit le monde agricole face aux caisses alimentaires ? Si les caisses alimentaires et ces nouvelles formes de solidarité alimentaire remettent en cause le fait qu'une partie de la surproduction part en aide alimentaire, ça n'arrange pas effectivement ce monde agricole qui défend le fait que grâce à la vente des surplus ou au don des surplus, il peut écouler une partie de sa production et nourrir des populations à faible coût. La FNSEA a créé un truc qui s'appelle Solal, qui est un moyen de dire on fait d'une pierre deux coups, si je puis dire, on lutte contre le gaspillage, on récupère les invendus et on les donne aux pauvres. Et donc à la fois, on évite le gaspillage d'un côté et on lutte contre la précarité alimentaire. Sauf que les gens en précarité alimentaire, ils disent que c'est insupportable pour eux. Donc c'est une difficulté face à certains milieux agricoles, mais le milieu agricole, il n'est pas homogène. Je vous rappelle qu'à la FNS, enfin, dans le vote des chambres d'agriculture, il n'y a que la moitié des agriculteurs qui votent. Et dans cette moitié, effectivement, la majorité, c'est la FNSEA. Mais ça veut dire que la FNSEA, elle ne représente que 25 à 30% des agriculteurs. Et donc, il ne faut pas mettre les agriculteurs tous dans le même panier en disant « les agriculteurs égale la FNSEA ». La FNSEA, elle s'est bien organisée sur les modes électoraux pour garder du pouvoir. Et donc, tu peux couper le micro. Comment on fait pour la fracturer? On la fracture. Donc, c'est ça la discussion, c'est comment on peut affaiblir aussi un syndicat majoritaire en fracturant, en fait, il y a déjà des lignes de fracture, c'est pas du tout non plus un syndicat homogène. Et donc, il y a des gens qui réfléchissent à la façon de la fragiliser. Est-ce que l'agroécologie peut nourrir tout le monde? Alors, moi, je vous conseille vraiment d'aller regarder un bouquin qui s'appelle « 10 Years for Agroecology », qui est en français, qui a été écrit par Xavier Poux, P-O-U-X, et Pierre-Marie Aubert, A-U-B-E-R-T. « 10 Years for Agroecology », T-Y-F-A. Alors, c'est un bouquin, il faut avoir un peu de compétences agronomiques pour comprendre les enjeux. Ce qui est intéressant, c'est que ces auteurs-là, ils ne rentrent pas tellement par la question climatique, ils rentrent par la question de la biodiversité. En disant, en fait, c'est beaucoup plus grave ce qui est en train de se passer avec la biodiversité que ce qui va peut-être se passer sur le climat. Le climat, tout le monde commence à le sentir, donc on ne parle que de ça, mais en fait, l'effondrement de la biodiversité est absolument dramatique. Donc eux, ils ont fait un modèle pour calculer est-ce qu'on peut nourrir l'Europe dans 10 ans avec de l'agroécologie partout. Et la réponse, elle est oui, mais à condition de réduire la consommation de produits animaux. La surconsommation. On surconsomme. On mange trop de produits animaux, et ce n'est pas que de la viande, c'est aussi des produits laitiers, et on surconsomme des protéines, je le dis entre parenthèses, quelles qu'elles soient. Donc ce n'est pas parce que vous réduisez un peu votre consommation de viande qu'il faut absolument la remplacer par des protéines végétales, le nouveau gros marché. Il faut réduire toute consommation de protéines, y compris, et commencer par celle des animaux. Après, il faut faire attention aux enfants et aux personnes âgées. Comment on réduit le pouvoir énorme de la transformation agroalimentaire et de la distribution? Vous avez déjà donné un exemple. Les magasins de producteurs, et donc de la vente directe, des circuits plus courts. En ville, les supermarchés coopératifs, c'est une forme alternative de reprise en main par les coopérateurs, par les consommateurs, par les acheteurs de leur lieu de distribution dans lequel on discute de qu'est-ce qu'on veut mettre en rayon et dans lequel on donne 3 heures par mois pour réduire les coûts et faire tourner un système qui essaye de pas trop augmenter les coûts. Il y en a maintenant au moins une dizaine en France. Ça vient d'une expérimentation qui a déjà quelques décennies, qui était à Brooklyn, à New York, qui s'appelle Park Slope, qui est un vieux supermarché coopératif tenu par ses coopérateurs.
Il y en a un à Grenoble, il s'appelle Elephant.
Merci Lilian, absolument. Mais vous disiez, du coup, vous disiez, est-ce que l'acte d'achat pourrait pas être, est-ce que le pouvoir du consommateur pourrait-il pas être un pouvoir de changer? Oui, mais attention, expliquer au consommateur qu'il faut qu'il arrête d'aller au supermarché et qu'il ferait mieux d'aller dans les boutiques bio du quartier. Quand ça se traduit par plus 20 ou 30% de coûts, en fait, il y a une partie des consommateurs qui ne peuvent pas y aller. C'est-à-dire qu'ils entendent qu'il faudrait manger bio et que ça serait mieux pour leurs enfants de leur donner de la nourriture issue de l'agriculture biologique pour leur santé, mais en fait, ils n'ont pas l'argent pour y aller ou ce n'est pas à proximité de chez eux. Donc, qu'est-ce que vous faites quand vous êtes soumis à cette injonction qu'il faudrait faire comme si, mais qu'en fait, c'est difficile de le faire? C'est plus compliqué, c'est plus cher, ça prend plus de temps. Vous finissez par culpabiliser vos citoyens qui savent qu'ils empoisonnent leurs enfants. Et donc, au bout d'un moment, en fait, vous finissez par penser que tout ça, c'est une construction par certains. Et en fait, c'est un rejet du bio. Et c'est ça qu'on est en train d'observer présentement. C'est un rejet même de l'idée du bio qui est peut-être pas si bon que ça. Et donc, aussi instrumentalisé par les fake news pour dire « mais non, mais le bio, on dit que, mais en fait, non ». Donc, moi, je me méfie quand même de dire que c'est le consommateur qui va être le moteur du changement. À la fois parce que c'est très compliqué pour lui de savoir qu'est-ce qui est bon. Est-ce que les nouveaux OGM CRISP, c'est bon ou pas pour la santé? Il y a plein de controverses. Est-ce que le bio, c'est bon ou pas? On voit bien que ça a été mis en controverse. Donc, de donner au seul consommateur la responsabilité de faire le changement, alors qu'il n'en a pas forcément les moyens, me semble un peu un piège. Je vous recommande un travail d'un psychosociologue qui s'appelle Sadi Lalou et qui a fait une revue de littérature de plus de 70 ans de recherche sur les comportements individuels et qui dit... Un comportement individuel, on a une certaine liberté de manœuvre, mais on est encadré par ce qu'il appelle des installations. Je vais vous donner l'exemple. Si vous voulez faire du vélo dans la ville, ça ne suffit pas d'expliquer aux gens que le vélo, c'est bon pour la santé et l'environnement. Si vous n'avez pas aménagé physiquement la ville pour que le vélo soit la chose la plus sécurisée et la plus facile, que vous ne faites pas voler votre vélo, que vous pouvez l'attacher n'importe où et que vous avez des pistes cyclables sécurisées. Donc, tant que vous n'avez pas installé matériellement votre environnement pour rendre cette chose-là la plus facile, et tant que vous n'avez pas non plus facilité un accès économique au vélo avec une subvention pour les vélos, ou tant que vous n'avez pas non plus construit une nouvelle norme sociale qui fait que les gens que vous voulez imiter, ils sont en vélo, et que plus il y en a, plus vous avez envie de faire comme eux, alors vous ne changez pas les comportements. Et au contraire, si vous vous limitez à éduquer les gens, à les sensibiliser, à les former, mais que vous ne leur donnez pas les moyens que faire ce que vous leur proposez de faire soit la chose la plus facile à faire, la plus économique à faire et la plus socialement désirable à faire, ben en fait, ça se traduit finalement par un rejet de la proposition que vous faites. Donc, oui, pour des changements individuels, mais ils doivent être encadrés par un changement de ce qu'on appelle les environnements alimentaires. Voilà.
Eh bien, merci.
Vous venez d'écouter Nicolas Bridas, auteur du livre « Une écologie de l'alimentation ». Retrouvez les autres conférences sur grenoblealpesmétropole.fr.